écoutez Radio France Internationale, il est 16h ici à Paris, 15h en temps universel, 17h à Jérusalem.
Diane Berger.
Nouvel échange d'otages contre des prisonniers au Proche-Orient. Le Hamas a libéré 3 civils contre 183 prisonniers palestiniens. Certains d'entre eux arrêtés après le 7 octobre 2023 sans qu'ils aient de lien avec l'attaque terroriste du Hamas. Aux États-Unis, Donald Trump doit signer dans quelques heures un décret imposant des taxes douanières importantes contre le Canada, le Mexique et la Chine. Pékin prépare sa riposte, vous l'entendrez. Nous reviendrons aussi sur la situation en Birmanie. 4 ans après le coup d'état de la junte, le tiers des habitants a besoin d'aide humanitaire pour survivre. Et puis un cargo de 136 mètres de long, capable de transporter plus de 5000 tonnes de marchandises. Tout ça à la voile, c'est la promesse du bateau Neoliner Origin, un navire bas carbone innovant pour la planète. Le soulagement à Tel Aviv après le 4e échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. 3 civils ont donc été libérés par le Hamas ce matin. Kif Sigel, Ofer Calderon et Yarden Bibas. En contrepartie, Israël a libéré 183 détenus palestiniens, parmi lesquels une centaine de Gazaouis arrêtés après le 7 octobre et sans lien avec l'attaque du Hamas. Ils étaient détenus sans charge ni jugement. À Jérusalem, Sami Bourlifa.
Amaigris, les joues creusées, le visage marqué, les détenus palestiniens retrouvent la liberté. Faher Shritah, porte-parole de la commission des affaires des détenus palestiniens, dénonce des conditions de détention effroyables dans les prisons israéliennes. Ils sont en mauvaise santé, ils ont été battus, humiliés, ils ont subi des actes de torture, surtout durant les derniers jours. Pour les forces d'occupation israéliennes, la libération de ces détenus est un aveu d'échec, car certains d'entre eux étaient condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité. Israël affirme que ces détenus ont du sang sur les mains. Certains ont été condamnés par des tribunaux militaires rattachés aux forces d'occupation israéliennes. C'est un simulacre de justice, dénonce Faher Shritah, dont l'organisation est liée à l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Ceux qui ont vraiment du sang sur les mains, ce sont les soldats des forces d'occupation israéliennes qui bombardent pour détruire, pour tuer ou amputer des enfants à Gaza. La lutte du peuple palestinien est légitime. Nous ne faisons que nous défendre. Nous souhaitons mettre un terme à l'occupation afin d'avoir un pays libre et indépendant. Parmi les 183 Palestiniens libérés ce samedi, 18 avaient été condamnés à la perpétuité, 54 à de longues peines. 111 sont des Gazaouis arrêtés après le 7 octobre mais sans lien avec l'attaque du Hamas. Les Palestiniens les considèrent comme des otages détenus uniquement pour servir à Israël de monnaie d'échange contre la libération des otages israéliens aux mains du Hamas. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Les chefs de la diplomatie de 5 pays arabes s'associent pour dire non à tout déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte ou la Jordanie. Une proposition de Donald Trump rejetée donc par la Jordanie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les 5 pays se disent également prêts, dans un communiqué commun, à travailler avec Washington pour trouver une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Le président américain, lui, prévoit de mettre ses menaces à exécution concernant les taxes douanières. Donald Trump doit en effet signer dans les prochaines heures un décret qui imposera des droits de douane de 25% pour les produits venus du Canada et du Mexique, de 10% pour ceux importés de Chine. Pékin n'a pas encore officiellement réagi, mais les autorités préparent leur réponse depuis des mois. Nathanaël Vitran.
Oui, la Chine n'est pas prise au dépourvu. Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été marqué par des tensions commerciales entre les deux pays, tensions qui d'ailleurs ont largement perduré sous Joe Biden. Les entreprises chinoises ont donc déjà relocalisé une partie de leur production au Vietnam ou au Cambodge, par exemple, pour contourner ces nouvelles taxes. Et en attendant de futures négociations, Pékin se présente aux yeux du monde comme le défenseur du multilatéralisme. Écoutez, Ding Zhexiang, le vice-premier ministre chinois, c'était il y a une dizaine de jours au Forum économique mondial de Davos.
Nous sommes à l'aube d'une nouvelle guerre commerciale. Bien sûr, la mondialisation peut provoquer des tensions, mais ces tensions ne peuvent être résolues qu'en faisant la promotion du multilatéralisme. Le protectionnisme ne mène nulle part et les guerres commerciales n'ont pas de vainqueur.
Ce qui ne veut pas dire que Pékin entend rester les bras croisés. Les représailles chinoises pourraient à nouveau cibler les producteurs américains de soja, très dépendants du marché chinois, ou pourquoi pas Tesla, l'entreprise de voitures électriques d'Elon Musk, un proche allié de Donald Trump. Et puis si ces nouvelles taxes américaines touchent des produits jusque-là épargnés comme l'électronique ou les iPhones, l'inflation pourrait repartir à la hausse aux États-Unis, transformant les consommateurs américains en alliés objectifs de Pékin.
La défense des intérêts de l'Amérique à la façon de Donald Trump, c'est aussi cette tournée du chef de sa diplomatie dans 5 pays d'Amérique centrale. Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, commence en effet son voyage avec une étape aujourd'hui au Panama. Alors que les relations sont tendues entre les deux pays, Donald Trump veut en effet prendre le contrôle du canal de Panama. Écoutez à ce sujet Hernando Franco Munoz, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Panama.
J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas d'une menace militaire en tant que telle, mais qu'il aime jouer les durs et qu'il est menaçant. Il me semble qu'il s'agit plus d'une négociation qu'autre chose. Il est très probable qu'il demande quelque chose en ce qui concerne les ports. Les ports appartiennent à une entreprise privée chinoise et non au gouvernement chinois. Il n'y a pas de base militaire chinoise ni de militaires chinois ici. Il n'y a aucune raison de dire que les Chinois contrôlent le canal. Nous savons que c'est vraiment absurde. Nous avons un contrat avec les Chinois qui est en vigueur avec une société chinoise. Et si le Panama rompt ce contrat, ou bien retire la concession qui a été accordée de manière légale, nous allons devoir recourir à un arbitrage qui coûtera certainement très très cher au Panama. Dans les cercles politiques, on parle aussi de la possibilité de demander une base militaire dans la région d'Arienque, ce qui est une préoccupation liée à la question du transit des sans-papiers qui passent par là, et très probablement que Rubio veut que le Panama accueille des personnes qui ne sont pas des ressortissants panaméens, mais qui ne peuvent pas être accueillies dans leur propre pays.
Une autre mesure de Donald Trump inquiète cette fois les milieux humanitaires au chevet de la Birmanie. Le président des États-Unis a en effet annoncé suspendre pour 90 jours de nombreux programmes d'aide américaine. Et il joue un rôle crucial en Birmanie où la junte règne par la terreur depuis son coup d'État il y a exactement 4 ans. Selon l'Association pour l'assistance aux prisonniers politiques, plus de 6000 civils ont été tués depuis 2021. Des villages sont bombardés quotidiennement. 3 500 000 personnes ont été déplacées par la guerre civile. Leur situation pourrait donc s'aggraver, selon Johanna Chardonnieras, experte en droit international et coordinatrice d'Info Birmanie.
On a un tiers de la population qui ont besoin d'aide humanitaire. Ça fait plus de 18 millions de personnes. Et l'ONU a lancé une alerte pour un risque de famine, notamment dans l'État Rakhine, où les récoltes ne devraient pas couvrir plus de 20% des besoins alimentaires de la population. Et en même temps, on a une réponse humanitaire qui, pour le moment, est complètement inadaptée. La majeure partie de l'aide humanitaire internationale passe via les canaux, on va dire, officiels, et donc via la junte, et n'atteint pas la population qui est dans les zones qui ne sont pas tenues par la junte birmane. Les coupures de l'aide publique américaine provoque en ce moment un vrai vent de panique dans la société civile birmane, avec notamment l'arrêt du travail, par exemple, de l'aide médicale des médecins dans les camps de réfugiés à la frontière birmano-thaï, qui plonge dans une précarité encore plus extrême une grande partie de la population birmane. Tout ce qui est considéré comme non urgent, par exemple le médical ou le scolaire, les bourses scolaires ont été suspendues. En Birmanie, il n'y a quasiment plus de système formel d'éducation. Les bourses scolaires sont la seule opportunité pour la jeunesse birmane de pouvoir avoir une vraie formation et revenir demain reconstruire le pays. Donc c'est quelque chose de très important.
Johanna Chardonnieras qui répondait à Heike Schmidt. Il s'appelle le Neoliner Origin, considéré comme le plus long cargo à voile du monde, une innovation pour limiter la pollution du fret maritime. Ce bateau a été conçu par la société française Neoline, construit en Turquie et mis à l'eau hier sur la mer de Marmara. Ce géant des mers pourra emporter plus de 5000 tonnes de marchandises sur des longues distances, Igor Strauss.
136 mètres de long, deux immenses mâts et 3000 mètres carrés de voilure, soit l'équivalent d'un demi-terrain de football. Telles sont les caractéristiques assez exceptionnelles de ce nouveau cargo à voile. Grâce au vent et en réduisant la vitesse de 15 à 11 nœuds, soit de 30 à 20 km heure, on divise par 5 la consommation de carburant et donc les émissions par rapport à un navire classique, souligne Jean Zanoutini, le président de Neoline. Au total, ajoute-t-il, c'est environ 80% d'économies d'émissions de gaz à effet de serre qui seront réalisées décarboner. La décarbonation de ce secteur est une nécessité. Aujourd'hui, 90% du commerce mondial est effectué par voie maritime, ce qui représente près de 3% des émissions de gaz à effet de serre selon l'Organisation maritime mondiale. Ce cargo à voile quittera la Turquie les cales pleines au cours de l'été 2025 pour rejoindre le port français de Saint-Nazaire, puis il débutera sa première rotation vers Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax sur les côtes nord-américaines. Neolagne espère désormais la mise en chantier prochaine d'un second cargo bas carbone.
Igor Strauss du service environnement de RFI. Il est maintenant 15h10 en temps universel, l'heure de tous les cinémas du monde.